Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble pour la suite du roman de Flaubert, Madame Bovary. On versa du vin de champagne à la glace. Emma frissonna de toute sa peau en sentant ce froid dans sa bouche. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Le sucre en poudre même lui parut plus blanc et plus fin qu'ailleurs. Les dames ensuite montèrent dans leur chambre s'apprêter pour le bal. Emma fit sa toilette avec la conscience méticuleuse d'une actrice à son début. Elle disposa ses cheveux d'après les recommandations du coiffeur et elle entra dans sa robe de barège étalée sur le lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre. « Les sous-pieds vont me gêner pour danser, » dit-il. « Danser ?» reprit Emma. « Ben oui. » « Mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi, reste à ta place. D'ailleurs, c'est le plus convenable pour un médecin, » ajouta-t-elle. Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée. Il la voyait par derrière dans la glace entre deux flambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs. Ses bandeaux, doucement bombés vers les oreilles, luisaient d'un éclat bleu. Une rose à son chignon tremblait sur une tige mobile avec des gouttes d'eau factice au bout de ses feuilles. Elle avait une robe de safran pâle relevée par trois bouquets de roses, pompons mêlés de verdure. Charles vint l'embrasser sur l'épaule. « Laisse-moi, » dit-elle, « tu me chiffonnes. » On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un cor. Elle descendit l'escalier, se retenant de courir. Les quadrilles étaient commencées. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la porte sur une banquette. Quand la contredanse fut finie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes causant debout et les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises, les éventails peints s'agitaient. Les bouquets cachaient à demi le sourire des visages et les flacons à bouchons d'or tournaient dans des mains entrouvertes dont les gants blancs marquaient la forme des ongles et serraient la chair au poignet. Les garnitures de dentelle, les broches de diamants, les bracelets à médaillons frissonnaient au corsage, scintillaient aux poitrines, bruissaient sur les bras nus. Des chevelures bien collées sur les fronts et tordues à la nuque avaient en couronne, en grappes ou en rameaux, des myosotis, du jasmin, des fleurs de grenadier, des épis ou des bleuets. Pacifiques à leur place, des mères à figure renfrognée portaient des turbans rouges. Le cœur d'Emma lui battit un peu lorsque son cavalier, la tenant par le bout des doigts, elle vint se mettre en ligne et attendit le coup d'archet pour partir. Mais bientôt l'émotion disparut. Et se balançant au rythme de l'orchestre, elle glissait en avant avec des mouvements légers du cou. Un sourire lui montait aux lèvres à certaines délicatesses du violon qui jouait seul, quelquefois, quand les autres instruments se taisaient. On entendait le bruit clair des louis d'or qui se versaient à côté sur le tapis des tables, puis tout reprenait à la fois, les cornets à piston lançant un éclat sonore. Les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouffaient et frôlaient, les mains se donnaient, se quittaient, les mêmes yeux s'abaissant devant vous revenaient se fixer sur les vôtres. quelques hommes, une quinzaine, de 25 à 40 ans, disséminés parmi les danseurs ou causant à l'entrée des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelles que fussent leurs différences d'âge, de toilette ou de figure. Leurs habits mieux faits semblaient d'un drap plus souple, et leurs cheveux ramenés en boucle vers les tempes, lustrés par des pommades plus fines. Ils avaient le teint de la richesse, ce teint blanc que rehausse la pâleur des porcelaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles et qu'entretient dans sa santé un régime discret de nourritures exquises. Leurs cous tournaient à l'aise sur des cravates basses, leurs favoris longs retombaient sur des cols rabattus. Ils s'essuyaient les lèvres à des mouchoirs brodés d'un large chiffre d'où sortait une odeur suave. Ceux qui commençaient à vieillir avaient l'air jeunes, tandis que quelque chose de mûr s'étendait sur le visage des jeunes. Dans leurs regards indifférents flottait la quiétude de passions journellement assouvies, et à travers leur manière douce perçait cette brutalité particulière que communique la domination de choses à demi faciles dans lesquelles la force s'exerce et où la vanité s'amuse, le maniement des chevaux de race et la société des femmes perdues. À trois pas d'Emma, un cavalier en habit bleu causait Italie avec une jeune femme pâle, portant une parure de perles. Il vantait la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellammare et les Casines et les roses de Gênes, le Colisée au clair de lune. Emma écoutait de son autre oreille une conversation pleine de mots qu'elle ne comprenait pas. On entourait un tout jeune homme qui avait battu la semaine d'avant Miss Arabelle et Romulus et gagné 2000 louis à sauter un fossé en Angleterre. L'un se plaignait de ses coureurs qui engraissaient, un autre des fautes d'impression qui avaient dénaturé le nom de son cheval. L'air du bal était lourd, les lampes pâlissaient, on refluait dans la salle du billard. Un domestique monta sur une chaise et cassa deux vitres. Au bruit des éclats de verre, Madame Bovary tourna la tête et aperçut dans le jardin contre les carreaux des faces de paysans qui regardaient. Alors, le souvenir des Berthaud lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous les pommiers. Et elle se revit elle-même comme autrefois, écrémant avec son doigt les terrines de lait dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors, s'évanouissait tout entière et elle doutait presque de l'avoir vécue. Elle était là. Puis, autour du bal, il n'y avait plus que l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une glace au marasquin qu'elle tenait de la main gauche dans une coquille de vermeil et fermait à demi les yeux, la cuillère entre les dents. Une dame près d'elle laissa tomber son éventail. Un danseur passait. « Que vous seriez bon, monsieur, dit la dame, de vouloir bien ramasser mon éventail qui est derrière ce canapé. » Le monsieur s'inclina. Et pendant qu'il faisait le mouvement d'étendre son bras, Emma vit la main de la jeune dame qui jetait dans son chapeau quelque chose de blanc, plié en triangle. Le monsieur, ramenant l'éventail, l'offrit à la dame respectueusement. Elle remercia d'un signe de tête et se mit à respirer son bouquet. Après le souper, où il y eut beaucoup de vin d'Espagne et de vin du Rhin, des potages à la bisque et au lait d'amande, des puddings à la Trafalgar et toutes sortes de viandes froides avec des gelées alentour qui tremblaient dans les plats, les voitures, les unes après les autres, commencèrent à s'en aller. En écartant du coin le rideau de mousseline, on voyait glisser dans l'ombre la lumière de leurs lanternes. Les banquettes s'éclaircirent. Quelques joueurs restaient encore. Les musiciens rafraîchissaient sur leur langue le bout de leurs doigts. Charles dormait à demi, le dos appuyé contre une porte. À 3 heures du matin, le cotillon commença. Emma ne savait pas valser. Tout le monde valsait. Mademoiselle d'Andervilliers elle-même et la marquise. Il n'y avait plus que les hôtes du château, une douzaine de personnes à peu près. Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement vicomte, dont le gilet très ouvert semblait moulé sur la poitrine, vint une seconde fois encore inviter Madame Bovary, l'assurant qu'il la guiderait et qu'elle s'en tirerait bien. Ils commencèrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient, tout tournait autour d'eux, les lampes, les meubles, les lambris et le parquet comme un disque sur un pivot. En passant auprès des portes, la robe d'Emma par le bas s'éraflait au pantalon. Leurs jambes entraient l'une dans l'autre. Il baissait ses regards vers elle. Elle levait les siens vers lui. Une torpeur la prenait. Elle s'arrêta. Ils repartirent. Et d'un mouvement plus rapide, le vicomte l'entraînant disparut avec elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber. Et un instant, s'appuya la tête sur sa poitrine, et puis, tournant toujours, mais plus doucement, il la reconduisit à sa place. Elle se renversa contre la muraille et mit la main devant ses yeux. Quand elle les rouvrit au milieu du salon, une dame assise sur un tabouret avait devant elle 3 valseurs agenouillés. Elle choisit le vicomte et le violon recommença. On les regardait. Il passait et revenait, elle immobile du corps et le menton baissé, et lui toujours dans sa même pose, la taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle savait valser, celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. On causa quelques minutes encore et après les adieux, ou plutôt le bonjour, les hôtes du château s'allèrent coucher. Charles se traînait à la rampe, les genoux lui rentraient dans le corps. Il avait passé 5 heures de suite, tout debout devant les tables, à regarder jouer au whist, sans rien y comprendre. Aussi poussa-t-il un grand soupir de satisfaction lorsqu'il eut retiré ses bottes. Emma mit un châle sur ses épaules, ouvrit la fenêtre et s'accouda.
La mélancolie c'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire, c'est 10 ans purés dans un souvenir, c'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie c'est un chat perdu qu'on croit retrouver, c'est un chien de plus dans le monde qu'on sait, c'est un nom de rue où l'on va jamais. La mélancolie c'est se retrouver seul place de l'opéra quand le flic t'engueule et qu'il ne sait pas que tu le dégueules en rentrant chez toi. C'est décontracter, ouvrir la télé et regarder distrait un Zitron pressé, te parler du tiercé que tu n'as pas joué. La mélancolie, la mélancolie. C'est voir un mendiant chez le conseil fiscal, c'est voir 2 amants qui lisent le journal, c'est voir sa maman chaque fois qu'on se voit mal. La mélancolie c'est revoir Garbeau dans la Reine Christine, c'est revoir Charlot à l'âge de Chaplin, c'est Victor Hugo et Léopoldine. La mélancolie C'est sous la teinture avoir les cheveux blancs et sous la parure faire la part des ans. C'est sous la blessure voir passer le temps. C'est un chimpanzé au saut en verre qui meurt à moitié, qui meurt à l'envers, qui donnerait ses pieds pour un revolver, la mélancolie, la mélancolie. C'est les yeux des chiens quand il pleut des eaux, c'est les bras du bien quand le mal est beau, c'est quelquefois rien, c'est quelquefois trop, la mélancolie. C'est voir dans la pluie le sourire du vent et dans l'éclaircie la gueule du printemps. C'est dans les soucis voir la fleur des champs, la mélancolie. C'est regarder l'eau d'un dernier regard et faire la peau au divin hasard et rentrer penaud et rentrer peinard. C'est avoir le noir sans savoir très bien ce qu'il faudrait voir entre loup et chien. C'est un désespoir qu'a pas les moyens, la mélancolie.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Madame Bovary, suite. La nuit était noire. Quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles et elle faisait des efforts pour se tenir éveillée afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, tâchant de deviner quelles étaient les chambres de tous ceux qu'elle avait remarqués la veille. Elle aurait voulu savoir leur existence, y pénétrer, s'y confondre. Mais elle grelottait de froid, elle se déshabilla et se blottit entre les draps contre Charles, qui dormait. Il y eut beaucoup de monde au déjeuner, le repas dura 10 minutes, on ne servit aucune liqueur, ce qui étonna le médecin. Ensuite, mademoiselle d'Audervilliers ramassa des morceaux de brioche dans une bannette pour les porter au cygne sur la pièce d'eau, et on s'alla promener dans la serre chaude où les plantes bizarres, hérissées de poils, s'étageaient en pyramide sous des vases suspendus qui, pareils à des nids de serpents trop pleins, laissaient retomber de leurs bords de longs cordons verts entrelacés. L'orangerie que l'on trouvait au bout menait le couvert jusqu'au commun du château. Le marquis, pour amuser la jeune femme, l'amena voir les écuries. Au-dessus des râteliers en forme de corbeille, des plaques de porcelaine portaient en noir le nom des chevaux. Chaque bête s'agitait dans sa stalle quand on passait près d'elle en claquant de la langue. Le plancher de la sellerie luisait à l'œil comme le parquet d'un salon. Des harnais de voiture étaient dressés dans le milieu sur deux colonnes tournantes, et les mors, les fouets, les étriers, les gourmettes rangés en ligne tout le long de la muraille. Charles, cependant, alla prier un domestique d'atteler son boc. On l'amena devant le perron, et tous les paquets y étant fourrés, les époux Bovary firent leur politesse au marquis et à la marquise, et repartir pour Tostes. Emma, silencieuse, regardait tourner les roues. Charles, posé sur le bord extrême de la banquette, conduisait les deux bras écartés et le petit cheval trottait l'amble dans les brancards qui étaient trop larges pour lui. Les guides molles battaient sur sa croupe en s'y trempant d'écume et la boîte ficelée derrière le boc donnait contre la caisse de grands coups réguliers. Ils étaient sur les hauteurs de Thibourville lorsque devant eux, tout à coup, des cavaliers passèrent en riant, avec des cigares à la bouche. Emma crut reconnaître le vicomte. Elle se détourna et n'aperçut à l'horizon que le mouvement des têtes s'abaissant et montant selon la cadence inégale du trot ou du galop. Un quart d'heure de lieue plus loin, il fallut s'arrêter pour raccommoder avec de la corde le reculement qui était rompu. Mais Charles, donnant au harnais un dernier coup d'œil, vit quelque chose par terre entre les jambes de son cheval et il ramassa un porte-cigare, tout bordé de soie verte et blasonné à son milieu comme la portière d'un carrosse. « Il y a même deux cigares dedans, dit-il. Ce sera pour ce soir après dîner. » « Tu fumes donc ? » demanda-t-elle. « Quelquefois, quand l'occasion se présente. » Il mit sa trouvaille dans sa poche et fouetta le bidet. Quand ils arrivèrent chez eux, le dîner n'était point prêt. Madame s'emporta. Nastasie répondit insolemment. « Partez, dit Emma. C'est se moquer, je vous chasse. » Il y avait pour dîner de la soupe à l'oignon avec un morceau de veau à l'oseille. Charles, assis devant Emma, dit en se frottant les mains d'un air heureux « Oh, ça fait plaisir de se retrouver chez soi !» On entendait Nastasie qui pleurait. Il aimait un peu cette pauvre fille, elle lui avait autrefois tenu société pendant bien des soirs, dans les désœuvrements de son veuvage. C'était sa première pratique, sa plus ancienne connaissance du pays. « Est-ce que tu l'as renvoyé pour de bon ? » dit-il enfin. « Oui, qui m'en empêche ? » répondit-elle. Puis ils se chauffèrent dans la cuisine pendant qu'on apprêtait leur chambre. Charles se mit à fumer. Il fumait en avançant les lèvres, crachant à toute minute, se reculant à chaque bouffée. « Tu vas te faire mal ! » dit-elle dédaigneusement. Il déposa son cigare et courut avaler à la pompe un verre d'eau froide. Emma, saisissant le porte-cigare, le jeta vivement au fond de l'armoire. La journée fut longue le lendemain. Elle se promena dans son jardinet, passant et revenant par les mêmes allées, s'arrêtant devant les plates-bandes, devant l'espalier, devant le curé de plâtre, considérant avec ébahissement toutes ces choses d'autrefois qu'elle connaissait si bien. Comme le bal déjà lui semblait loin. Qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui ? Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage, en une seule nuit, creuse quelquefois dans les montagnes. Elle se résigna pourtant. Elle serra pieusement dans sa commode la belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin, dont la semelle s'était jaunie à la cire glissante du parquet. Son cœur était comme eux. Au frottement de la richesse, il s'était placé dessus quelque chose qui ne s'effacerait pas. Ce fut donc une occupation pour Emma de se souvenir de ce bal. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah, il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'y étais !» Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'air des contredanses, elle ne vit plus nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta. Souvent, lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l'armoire entre les plis du linge où elle l'avait laissé le porte-cigare en soie verte. Elle le regardait, l'ouvrait, et même elle flairait l'odeur de sa doublure mêlée de verveine et de tabac. À qui appartenait-il ? Au vicomte. C'était peut-être un cadeau de sa maîtresse. On avait brodé cela sur quelques métiers de palissandre, meubles mignons que l'on cachait à tous les yeux, qui avaient occupé bien des heures et où s'étaient penchées les boucles molles de la travailleuse pensive. Un souffle d'amour avait passé parmi les mailles du canevas. Chaque coup d'aiguille avait fixé là une espérance ou un souvenir. Et tous ces fils de soie entrelacés n'étaient que la continuité de la même passion silencieuse. Et puis le vicomte, un matin, l'avait emporté avec lui. De quoi avait-on parlé lorsqu'il restait sur les cheminées à large chambranle, entre les vases de fleurs et de pendules pompadour ? Elle était à Tostes. Lui, il était à Paris, maintenant, là-bas. Comment était-ce, ce Paris ? Quel nom démesuré ? Elle se le répétait à demi-voix pour se faire plaisir. Il sonnait à ses oreilles comme un bourdon de cathédrale. Il flamboyait à ses yeux jusque sur l'étiquette de ses pots de pommade. La nuit, quand les mareyeurs dans leurs charrettes passaient sous ses fenêtres et chantaient la marjolaine, elle s'éveillait. Et écoutant le bruit des roues ferrées qui, à la sortie du pays, s'amortissaient vite sur la terre, « Ils y seront demain !» se disait-elle. Et elle les suivait dans sa pensée, montant et descendant les côtes, traversant les villages, filant sur la grande route à la clarté des étoiles. Au bout d'une distance indéterminée, il se trouvait toujours une place confuse où expirait son rêve. Elle s'acheta un plan de Paris, et du bout de son doigt sur la carte, elle faisait des courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards, s'arrêtant à chaque angle entre les lignes des rues, devant les carrés blancs qui figurent les maisons. Les yeux fatigués, à la fin, elle fermait ses paupières et elle voyait dans les ténèbres se tordre au vent des becs de gaz avec des marchepieds de calèches qui se déployaient à grand fracas devant le péristyle des théâtres. Elle s'abonna à La Corbeille, journal des femmes, et au Sylphe des salons. Elle dévorait, sans rien en passer, tous les comptes rendus de premières représentations de courses et de soirées, s'intéressait au début d'une chanteuse à l'ouverture d'un magasin. Elle savait les modes nouvelles, l'adresse des bons tailleurs, les jours de bois ou d'opéra. Elle étudia dans Eugène Sue des descriptions d'ameublement. Elle lut Balzac et Georges Sand, il cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises personnelles. À table même, elle apportait son livre et elle tournait les feuillets pendant que Charles mangeait en lui parlant. Le souvenir du vicomte revenait toujours dans ses lectures. Entre lui et les personnages inventés, elle établissait des rapprochements. Mais le cercle dont il était le centre peu à peu s'élargit autour de lui, et cette auréole qu'il avait, s'écartant de sa figure, s'étala plus au loin pour illuminer d'autres rêves. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.